إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes donc toujours dans la série de cours d'explication, plutôt de traduction de l'explication des trois fondements, livre écrit par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et ce livre donc est expliqué par le noble savant, notre noble cheikh Obed al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, qui est donc un des chouurs de Médine, qui est un cheikh contemporain qui est encore vivant. Et donc on était arrivé à la parole de Muhammad al-Wahhab rahimahullah ta'ala, « قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله ». Donc je lis comme d'habitude, inshallah, passage par passage en arabe, et on traduit ensemble, inshallah, en français. Donc, sa parole, قوله أن من أطاع الرسول ووحد الله. Cheikh Obeid nous explique cela en disant: العبادة لا تسمى عبادة على الوجه الصحيح حتى يجتمع فيها هذان الأمران: طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني تجريد المتابعة له صلى الله عليه وآله وسلم. Et je rappelle l'obligation de dire صلى الله عليه وسلم lorsqu'on entend son nom, عليه الصلاة والسلام. وتوحيد الله يعني تجريد الإخلاص. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala? Il nous dit: celui qui obéit au messager et unifie Allah, c'est-à-dire qu'il est sur le tawhid. Cheikh Obeid nous explique ce petit passage-là, cette phrase-là, en disant: l'adoration ne s'appelle de manière authentique adoration que si ces deux choses s'y retrouvent. Quelles sont ces deux choses? La première, l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité dans son adoration et suivre uniquement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh Mohammed al-Wahhab nous dit: « La yajouz lahu mu'alatu man hadd Allah wa rasoulah. » Cheikh Obeid nous explique cela en disant: « Al-mu'alat » Il définit, il dit: « Hiya al-mahabbatu wa al-nusratu fi Allah, huya al-mu'adda, li'anna al-hubba fi Allah wal-bughda fi Allah » قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Qu'est-ce que nous dit ici Cheikh Obeid al-Jabiri hafidahullah? Nous dit donc: celui qui obéit à qui? Au messager d'Allah, comme on a dit, et qui vous une adoration quoi? Exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il n'est pas permis de s'allier à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Et là, il va définir c'est quoi justement alliance, s'allier. Il n'est pas permis de s'allier. Pour savoir qu'est-ce qui n'est pas permis, il faut savoir c'est quoi l'alliance. Il dit l'alliance, al-mu'alat, c'est le fait d'aimer et de secourir en Allah. Car l'amour est en Allah et la détestation en Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit: celui qui aime en Allah et déteste en Allah, donne pour Allah et interdit pour Allah, aura parachevé, compléter sa foi. Faqad istakmala al-iman. Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Et quand on dit rapporté par Abu Daoud, c'est dans As-Sunan, barakallahu fik, na'am. Et authentifié par l'éminent savant du hadith, notre grand cheikh, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans Sahih al-Jami'. Cheikh Obeid continue en disant: wa fi sahihayni an Anas radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala: thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman an yakuna afwan man kunna fihi, parce que c'est damir yaudu ila man, celui qui, وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد من الحديث شيخ عبيد ندي أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فالبغض في الله يجب وإن كان مع أقرب الناس ما دام محادا لله ومعاندا شرع الله وإن كان أقرب الناس. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Abdel Jabiri حفظه الله تعالى؟ Il nous dit, donc il continue son explication en disant, dans les deux authentiques, c'est-à-dire dans Bukhari wa Muslim, naam, d'après Anas, radiallahu anhu ardah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui en qui se trouvent ces trois choses goûtera la foi. Qu'Allah, et c'est la première, qu'Allah et son messager soient aimés par lui, comment ? Plus que toute autre chose. Et ça, ça nous rappelle quel hadith qu'on avait vu ensemble, dans quel livre ? Dans le livre de Cheikh Rabi' qu'on a fini ensemble, ici à la mosquée, qui était le 21 hadith dans la croyance et le suivi. On avait parlé de ça. Donc qu'Allah et son messager soient aimés par lui, plus que toute autre chose. Et que lorsqu'il aime un individu, il ne l'aime que pour Allah. Et ça, c'est un rappel pour nous tous. Quand on aime un individu, qu'on ne l'aime que pour Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté en enfer. Et le hadith l'est rapporté par le Bukhari au Muslim, donc d'après qui ? D'après quel sahabi ? Anas. Barakallahu fik, radiallahu anhu arda. Qui sait me rapporter ici les trois choses que tu cites dans le hadith ? Même en français. Barakallahu fik, c'est-à-dire quoi en français ? C'est que. Toute autre chose, naam, de lui. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vas-y. Barakallahu fik, lorsqu'on aime quelqu'un, on ne l'aime qu'en Allah. Et la dernière, naam. C'est-à-dire qu'il a peur de retourner, c'est ça le bon mot, à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé. Comme quoi ? Comme il déteste être jeté en enfer. D'accord ? Et donc c'est quoi le fruit de ça, de ces trois choses-là ? C'est le début du hadith. C'est quoi les... Barakallahu fik, naam, il trouvera littéralement, il trouvera quoi ? La saveur de l'iman, c'est-à-dire il goûtera la foi. Et donc je rapporte le hadith, il est dans le Bukhari au Muslim, je le rappelle. Inch'Allah, si vous voulez avoir plus d'explications, plus de détails, revenez à Fath al-Bari, Shah al-Bukhari, ou bien dans Sahih Muslim, Al-Minhaj al-Nawawi, ou bien Sharh al-Qadi'iyad, etc. Les shurouh connus dans Ahl Sunnah al-Jama'a. Naam. Comme le frère rapporte ici, il en parle aussi, si je me souviens bien, dans l'explication des shurouh la ilaha illallah, Cheikh Abdel Jabiri. C'est un livre que je vous avais déjà conseillé dans un des cours précédemment. Cheikh, qu'est-ce que nous dit par rapport à ce hadith ? Pourquoi il a cité ce hadith ? Il dit فَالشَّهِدْ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. La partie qui nous intéresse ici dans le hadith, c'est que lorsqu'il aime un individu, il ne l'aime que pour Allah. Parce qu'il faut replacer ça dans le contexte. Pourquoi il a cité le Cheikh le hadith ici ? Parce qu'on parle de quoi ? De l'amour et la détestation en Allah Azza wa Jal. D'accord ? C'est pour ça qu'il a dit ici, la partie qui nous intéresse ici dans ce hadith, c'est que lorsqu'il aime un individu, il ne l'aime que pour Allah Azza wa Jal. Et le cheikh continue en disant, la détestation en Allah est obligatoire. Et ce, même si c'est la personne la plus proche, tant qu'il s'oppose à Allah, et s'oppose à la législation d'Allah. Et ce même s'il est la personne la plus proche. Évidemment, ça n'implique pas, et là je sors de ce qu'il dit le shir, mais vous connaissez la parole de ma shir, ça n'implique pas le mauvais comportement, etc. D'accord ? C'est important de le rappeler aussi. Et le shir continue en disant, وَاسْتَدَلَّ الشِّيْخْ بِهَادِ الْآيَ مِنْ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآيَ. On doit finir le verset. Donc le shir dit, Le cheikh a utilisé comme preuve le verset de Surat Mujadala qu'on a déjà cité précédemment et qu'on cite ici en partie. Tu n'en trouveras point, dans la traduction du sens est, tu n'en trouveras point parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? La tajidou, tu n'en trouveras point. الخطاب أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في هذا وأمته تبع له في هذا الخطاب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله قال يوادون لا يمحضون أهل الكفر والفسق والفجور ولا يمحضونهم أو يمحضونهم المودة وقد يتعاملون معهم ولكن لا مودة بينهم لأن المودة لأعداء الله تنقض قاعدة الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله عاما كائنا من كان وإن كان أقرب الناس كالآباء والأبناء والإخوة والعشيرة إذا يخبر كل سيتي en titre d'exemple si vous terminez le verset ولو كانوا آباءهم أو أو إخوانهم أو عشيرتهم c'est pour ça que الشيخ a cité الآباء الأبناء الإخوة والعشيرة et il dit وهذا الأصل الأصيل يعني قاعدة الولاء والبراء لا يفقهها حق الفقه إلا أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم في الحياة وبعد الممات فالمودة غير التعامل et ça c'est un point important il va dire que le مودة c'est pas le fait de quoi d'avoir des relations, des transactions avec quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce que nous dit Cheikh ici il dit, tu n'en trouveras point. Celui à qui cela t'est adressé, pourquoi? La tajidou, tu ne trouveras point. Celui à qui ça s'adresse en premier, c'est qui? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, la parole s'adresse à sa communauté. Tab'an lahu, comme il a dit en arabe. Pourquoi? Parce que la communauté suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'en trouveras point parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Qu'est-ce que veut dire ne prennent pas pour amis? Ils ne portent pas d'affection pure aux gens de la mécréance, de la perversité et de la débauche. Cheikh, il a parlé de fisq, fujur et kufr. Ils ne leur portent pas d'affection pure. Il se peut qu'ils aient des transactions avec eux, mais il n'y a pas d'affection pour eux, car l'affection portée aux ennemis d'Allah annule la règle de l'alliance et du désaveu. Tu n'en trouveras point parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ceci est général. Il dit « Amman, ka'inan man kan » C'est ce qu'il a dit chez en arabe. Ceci est général pour qui que ce soit et même s'il fait partie des gens les plus proches, comme les pères, les enfants, les frères, la famille. Ceci est le fondement authentique. Je veux dire par là la règle de l'alliance et du désaveu. Al-wala wal-bara. Ne la comprennent vraiment que les gens de la sunna et du consensus. Ahl sunna al-jama'a. On avait dit dans un des cours pourquoi Ahl sunna al-jama'a s'appelle Ahl sunna al-jama'a. Ahl sunna, comme il a dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, لأنهم متمسكون بها الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. On s'appelle Ahl sunna al-jama'a pourquoi? Parce qu'ils se crampent dans la sunna et ils sont regroupés autour de cette sunna. C'est ça qui nous regroupe, c'est la sunna. Et Cheikh nous fait une dua. Qu'Allah fasse que l'on fasse partie d'eux dans cette vie après la mort. Amin. L'affection est différente d'avoir, c'est quelque chose de différent du fait d'avoir des transactions avec quelqu'un. D'accord? Un cheikh continue et rapporte un point intéressant et il dit وَهُنَا سُؤَال Il y a une question qui se pose. هَذِي الْآيَةُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْحَذَرِ مِنَ الْبِدَعِ وَإِنْكَارِهَا وَتَنَكُّرْ لَهَا بَقِيَ الْمُبْتَدِعَةِ كَيْفَ يَكُنُ التَّعَامُلُ مَعَهُمْ Il dit, regardez la question qui va être posée ici, c'est quoi? Une question se pose, ce verset fait partie des preuves les plus importantes sur quoi? Sur le fait d'être sur ses gardes quant aux innovations. Et sur le fait de la réprouver et la détester. Il nous reste maintenant à quoi étudier le fait, à savoir à propos des innovateurs. Comment de se comporter avec eux? Et ça c'est un point important. Et Cheikh explique cela. Parce que des fois, on peut avoir deux extrêmes, comme on le voit beaucoup de nos jours. On peut avoir du laxisme ou de l'exagération. C'est important d'avoir des dawabit là-dedans. D'avoir des règles précises et de ne pas faire n'importe quoi. Cheikh, il dit, awwalan, il dit, al-bid'a thalatatu asnaf. Regardez, il parle de mubtadi'a, il faut d'abord quoi? Parler de la bid'a. Il dit, la bid'a est de trois catégorie. Naam, barakallahu fik. Et la première, awalan, mukaffira. Hein, on va expliquer en français. Kabid'ati rafdi wa tajahumi wa l'hululi wa wahdati l'wujud. Thanian, mufassiqa. Kabid'ati l'i'tizal wa tamash'ur. Qu'est-ce que tamash'ur? Naam, l'ash'ariya. C'est un nom pour dire quoi? Pour faire référence à ce qu'on appelle l'ash'ariya. D'accord? Ou bien plutôt pour rappeler au groupe les gens de l'ash'a'ira. Hein? Qui se revendique de suivre Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, et s'il le suivait vraiment, eh bien, il serait sur la dernière position, sur la dernière position sur laquelle il était, et qu'il est revenu à la croyance d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Hein? Je vous réfère d'ailleurs à un excellent livre de lui-même, qu'il écrit, Al-Ibana an Usul al-Diyana. Hein? Il rapporte la croyance d'Ahl Sunnah al-Jama'a point par point. Hein? Il dit que sur la croyance de l'imam Ahmed, etc. Donc s'ils sont vraiment Ash'a'ira, eh bien qu'ils soient sur son dernier madhab. Hein? D'accord? Et revenez, Inch'Allah, au livre de Mashiach, c'est intéressant de voir la vie d'Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah. Très, très intéressant. Hein? Donc, ce qu'on disait, on a dit qu'il y avait quoi? Trois catégories. Cheikh continue en disant, « هذا هو فقه البدعة الذي بينه السلف. فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح أنها مكفرة. وهذا أظنها لا تحتاج إلى وقفة ما دامت مكفرة. فالكل متفق على إنكارها وإنما الخلاف اليوم في البدع المفسقة وما دون ذلك نقول. Et après on va rapporter tout en français, ce sera peut-être plus clair pour les frères francophones de faire comme ça. ونقول السلف مجتمعون على إنكار البدع حتى المفسقة وما دونها. فقد ثبت عنهم بالتواتر زجر المبتدعة وإنكار البدع دون تفريق. فلم ينقل عنهم أن الإنكار عندهم مقصور على البدع المكفرة. والأصل هو هزر المبتدع. هذا هو الأصل. هزره وزجره إن كان مظهرا بدعته داعية إليها. ومن ذلك أنهم قرروا عدم قبول رواية المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته. إما إذا كان المبتدع لم يدعو إلى بدعته أو لم يروي ما يدعو إلى بدعته فإنهم يقبلون روايته. قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبان بن تعلب وابن تغلب شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. انظر ميزان الاعتدال. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Abd al-Jabiri حفظه الله تعالى? Il dit l'innovation est de trois types. Hein? C'est important d'avoir cette catégorisation des innovations en tête. Il dit la première est ce qu'on appelle comment en arabe? Mukaffira. Ça devrait rappeler un mot que vous connaissez, le kufr. Mukaffira, c'est-à-dire qui fait sortir de l'islam. Hein? D'accord? Qui rend mécréant. Eh bien, il dit qu'il fait sortir de l'islam comme Ar-Rafd. Hein? Et de le nom de Ar-Rawafid, ou Ar-Rafidi, naam, Ar-Rafidi. Tajahum. Ça vous a rappelé quelqu'un, ça? Tajahum. Jahm. Hein? Al-Hulul. Et, Wahdat l'Wujud. Hein? Qu'est-ce que c'est Wahdat l'Wujud? C'est-à-dire que, naam, il est dans toutes choses, d'accord? La deuxième, ce qu'on appelle mufassiqa, et ça doit aussi vous rappeler un mot connu, fisq, d'accord? C'est-à-dire qui rend pervers, qui rend fasiq. Hein? Al-i'tizal et al-tamash'ur. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi par mufassiqa? C'est qu'elle est en dessous de la mukafira. C'est-à-dire que celui qui a cette bid'a ala sa mubtadi' walakin quoi? Mais il ne sort pas de l'islam. Hein? Et la troisième, ce qui est en dessous de cela, comme par exemple faire de l'invocation en groupe. D'accord? Hein? C'est une bid'a aussi, faire l'invocation en groupe. Bid'a du'a jama'atan. Hein? Et donc, Cheikh continue en disant, ceci est la compréhension de l'innovation, comme l'ont mise en évidence les plus prédécesseurs. La bid'a mukaffira, elle est claire. Hein, il est clair qu'elle est mukaffira. Et Cheikh dit, Cheikh Abu al-Jabiri, et je pense plutôt qu'il n'est pas utile de s'arrêter là-dessus, car tout le monde est d'accord que pour la réprouver. D'accord? Il dit, la divergence aujourd'hui se trouve au sujet de la bid'a mufassiqa. Hein, et ce qui est en dessous de cela. Nous disons, Cheikh Abu al-Jabiri dit, les salafs, les plus prédécesseurs, sont unanimes. Et ça, c'est important. C'est quoi encore une fois, comme on a dit hier, unanime, ijma, attention, sont unanimes sur le fait de réprouver l'innovation, même la moufassiqa. Et ce qu'il y a en deçà, c'est-à-dire en dessous de la bid'a moufassiqa. Hein? Il a été rapporté avec de multiples chaînes de narration. Comment on appelle ça en hadith? Tawatur, na'am. Hein? Qu'ils ont réprimé les innovateurs et ont réprouvé les innovations sans aucune distinction. Voilà, là on a la réponse. Est-ce qu'ils ont fait cette distinction justement eux? Ils l'ont pas fait, donc nous on ne doit pas la faire également, d'accord? Hein? Il n'a pas été rapporté d'eux qu'ils n'ont réprouvé que les bid'a mukaffira. Donc là-bas, c'est quoi? C'est de boycotter ce qu'on appelle hajr, hein? Hein? Et qui dans la langue arabe veut dire quoi le hajr? Hein? At-tark, hein? Délaissement, hein? D'où le mot hijra. Hmm? La base, c'est de boycotter, délaisser l'innovateur. Ceci est la base. Le délaisser et le réprimer. S'il expose son innovation, il y appelle. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de ne pas prendre, hein, et ça c'est une règle dans le hadith, vous voyez comme, hein, prend beaucoup de fawaïd, accepter la narration, ils ont décidé de ne pas prendre, de ne pas accepter la narration d'un innovateur s'il rapporte ce qui renforce son innovation. Hein? C'est clair, hein? Donc, ils ont décidé quoi? Hein? De ne pas prendre sa narration s'il rapporte, ou son rapport s'il, hein, narre ou rapporte quelque chose qui renforce quoi? Sa bid'a à sa narration. Non, hadith. On parle des narrateurs du hadith ici. Hein? De ceux qui sont dans les chaînes de transmission. Lui rapporte un hadith. Maintenant, lui, il est dans la chaîne de transmission. Si on voit que lui, c'est un innovateur et qu'il rapporte quelque chose qui étaye en français, qui renforce sa bid'a, eh bien, on ne prend pas sa narration. D'accord? C'est ça que veut dire le shir ici. Il dit, tandis que si l'innovateur, là tu seras peut-être plus clair, n'appelle pas à son innovation ou ne rapporte pas ce qui appelle à sa bid'a, ils prennent alors sa narration, c'est-à-dire ils l'acceptent. Hein? Revenez dans le livre, le shurah du Musalah al-Hadith, comme shurah al-Bayquni, etc. Ils en parlent, les mashayikh, d'accord? Al-Dhahabi a dit, hein? Quelle référence, al-Dhahabi, l'imam, l'allama al-Dhahabi, rahimahullah, a dit dans la biographie d'Aban ibn Thaghlab, c'est un chiite pur. Hein, il a dit shi'i jald. Hein, mais il est sadouq. Pour nous, sa véracité et sur lui, son innovation. Hein, mais attention, c'est qui décide quand prendre et quand pas prendre? C'est pas nous, c'est les gens du hadith. Et pour la référence, pour ceux qui veulent voir la parole de l'imam Dhahabi, rahimahullah, voir Mizan al-I'tidal, volume 1, page 118. Shir continue en disant. ونقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هذا يعني هزر المبتدع وزجره إذا كان داعيا إلى بدعته مظهرا لها مقررا لها إلا إذا ترتب على هجره مفسدة أكبر من هجره فإنه لا يهجر لأن الهزر ليس أمرا شخصيا غايته التشفي بل هو عقوبة شرعية. C'est très important de comprendre ça. Et ça me rappelle une parole très 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 résumée, mais très très forte de Sheikh al-Albani rahimahullah, qui disait Al-Hajru mas'alatun ilmiyatun daqiqatun tahtaju ila tatbiqin ilmiyin daqiq. Il disait Al-Hajr, c'est une mas'ala quoi? Scientifique, précise, hein? Qui demande une application quoi? Scientifique, précise. C'est ce que le Sheikh dit ici. فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل السنة نفع هزر المبتدع وزجره وإذا كانت الغلبة لأهل البدع والشوك لهم لم يهجر المبتدع خشية المفسدة لأن المضار على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها وهذا فقه عظيم وأدلته من السنة ظاهرة مستفيضة. Et puis après, le Cheikh va rapporter l'adilla là-dessus. On lit déjà ce passage. Le Cheikh dit: Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres ont rapporté cela. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je veux dire par là le boycott et la réprimande de l'innovateur s'il appelle à la bid'a et l'expose. L'affirme sauf si le fait de le boycotter amène à un plus grand mal ou un plus grand mal que son boycott. Hein? Ou le fait que de ne pas le boycotter plutôt ici. À ce moment-là, il ne faut pas le boycotter. Car le hazr, ce qu'on appelle le boycott, n'est pas une chose personnelle, hein, dont le but serait d'assouvir une vengeance. Non, c'est un châtiment légiféré. Donc si les gens de la sunna sont en situation de force, le boycott de l'innovateur et sa réprimande sont alors bénéfiques. Hein? Si les gens de l'innovation sont en force, l'innovateur n'est pas boycotté, du peur du mal que cela peut amener. Hein? Et avant que j'oublie, ça nous rappelle quoi? Le fait, l'importance de revenir aux savants. C'est pas nous qui décidons quand c'est bon, quand c'est pas bon. On n'est pas capable de voir le maslaha dans le mafsada, dans le maslaha. Hein? Ça c'est important aussi, dans chaque cas, revenir aux gens de science. Il dit, le shir, ça c'est un rapport, un qaïda très important de ce qu'on appelle les qawaid al-sharia al-am, les règles de la législation islamique, c'est quoi? Car le tout, hein, est basé sur la réalisation des intérêts. Ce qu'on appelle quoi? Tahrir al-masalih, ou plutôt takthir al-masalih, le fait de les rendre nombreux, al-masalih, et leur multiplication, et repousser ce qu'on appelle les dégâts, le mafsada, et les diminuer. Et ça rappelle une règle très importante de Mashiach qui disent dar'u al-mafasidi muqaddamun 'ala jalbi al-masalihi. Et d'autres règles qui découlent de celle-là, d'accord? Donc chez Cheikh dit ici, et justement c'est pour ça qu'il dit cela, ceci est un fiqh très important et ses preuves de la sunna sont claires et nombreuses. Et là il va rapporter les preuves. Rawal Bukhari wa ghayruhu rahimahumullah jami'an an Aisha radhiyallahu anha wa ardaha. Cette histoire, c'est une très très belle histoire et ça nous donne beaucoup d'enseignements. Ista'dana rajulun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Faqala i'danu lah bi'sa akhul ashirati ou ibnul ashirati falamma dakhala alayhi alanahu alqawl. Tatallaqat fi wajhihi. Falamma kharaja qalu lah ya rasulallah qulta ma qult wa alanta lahu alqawl. قال إن الشر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه فليفقه الدعاة. C'est نصيحة الشيخ pour les دعات, pour nous tous. فليفقه الدعاة هذا الجانب هزر المبتدع ضمن قاعدة الولاء وهو واجب عليكم السلام. ولكن حينما يحقق الغرض أو يحقق الغرض ولا يخشى بالهزر مفسدة أكبر منه. وفي الصحيحين, on va plutôt dire d'abord ça. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh ici? Al-Bukhari, rahimahullah, et d'autres ont rapporté de Aïchata, radiallahu anha, qu'un homme a demandé l'autorisation d'entrer au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, laissez-le entrer, et quel mauvais Ashira est-il? Hein? Quel mauvais Ashira? Regardez ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui. Et regardez comment il va, malgré ça, se comporter avec lui. Lorsque l'homme entra, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui parla de manière douce, avec un visage ouvert. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsqu'il sortit, ils lui dirent, « Ya Rasulallah, regardez ça, hein? Oh messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit ce que tu as dit, hein? Et tu lui as adressé la parole de manière douce. » Regardez l'enseignement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, « Les pires des gens sont ceux que les gens laissent, ou plutôt laissent faire, de peur de leur mal. » Hein? C'est pour ça que le prophète sait. Parce que, hein? S'il s'était comporté d'une autre manière avec lui, il y aurait quoi? Une mafsada là-dedans, d'accord? Et revenez au surah du hadith, hein? Je ne vous le dis pas, mais je vous assure, il y a un point très très intéressant à rapporter ici sur qui est cette personne et quel ulama ils ont dit, etc. Revenez au surah du hadith. Très très intéressant. Revenez par exemple à Fath al-Bahri, Sharh Sahih al-Bukhari. Et donc, le shir continue en disant que les prêcheurs, et c'est ça la nasiha du Cheikh, hafidahullah ta'ala, les pires des gens sont ceux, donc, pardon, que les prêcheurs donc comprennent ce point. Le boycott de l'innovateur dans le cadre de la règle de l'alliance et du désaveu, et c'est une obligation, mais lorsque son application permet d'arriver au but voulu. Et si on ne craint pas que le boycott amène un mal plus grand. Hein? Cheikh continue en disant, وفي الصحيحين وغيرهما من رواة المبتدعة وهم معروفون بين الناس بالبدعة. celui qui fait le talib ilm qu'on avait dit qui fait le ta'liq du kitab, انظر توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للعلماء ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. الشيخ دي لأن الهزر أحيانا يترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المبتدع أو راكب البدعة له شوكة وله قوة وله مكانة, فهل ترى أن هجره وزجره يحقق غرضك أيها الداعية؟ لو دخلت بلدة من البلدان شيخه قدري أو جبري أو صوفي فأغلظت له القول ووقعت فيه وشنعت عليه، فهل تتمكن من الدعوة؟ أبدا. إن سلمت حياتك لن تتمكن من الدعوة. هذا إن سلمت حياتك. فإذا ليفقه طلاب العلم والدعاة هذا الجانب. كيسك دي الشيخ عبيد الجبير حفظه الله تعالى، il y a des rapporteurs parmi les innovateurs qu'on retrouve dans les deux authentiques et d'autres livres. Ils sont connus chez les gens, c'est qui les gens de la Sunna évidemment, pour leur innovation. Et le Talib Ilm qui fait le ta'liq, il rapporte une référence, le livre de l'imam al-San'ani, volume 1, page 93, qui s'appelle Tawdih al-Afkar, Lima'ani Tanqih al-Andar, d'Ibn al-Amir al-San'ani, rahimahullah ta'ala. Il dit, car le boycott amène de grands mots, le pluriel de mal, si l'innovateur est sur son innovation et est en situation de force et a une position élevée. Il dit, cher, toi le prêcheur, penses-tu que son boycott et le fait de le réprimer vont réaliser ton but? Et cher, donne un exemple. On est sûrement, chacun d'entre nous, là, ça nous est arrivé lorsqu'on voyage. Si tu vas dans un pays où le cher du pays, par exemple, c'est un qadari, d'accord? Un jabri ou un soufi, et que tu lui adresses la parole durement, et que tu parles sur lui, et tu es dur avec lui, seras-tu en bonne position pour prêcher, pour faire la da'wa? Cheikh dit jamais. Si ta vie est sauve, si tu fais ça que ta vie est sauve, tu ne seras pas en situation de prêcher, et ceci si ta vie est sauve. Que les prêcheurs et les étudiants en sciences islamiques comprennent bien ce point. Cheikh continue en disant, فالآية الكريمة وهي قول الحق جل وعلا كل شيخ كل آية كنصح بدي كونتكست نعم سورة المجادلة نعم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الشيخ ساغتيسي إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة فمن دونهم أولى بالمفاصلة والمباغضة إذا كانوا محادين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Abdel Jabiri حفظه الله؟ Il dit ce verset, il fait référence au verset de Sourate Al-Mujadala. Il dit ce verset est donc une preuve pour affirmer. Il dit plutôt, ce noble verset dont la traduction est « Tu n'en trouveras point parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. » Il a cité combien de genres de personnes ici? Quatre, c'est pour ça que Cheikh va donner les quatre après. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer, ça c'est le verset complet, le Cheikh l'a pas cité complètement, on le traduit complètement. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée, ceux-là sont le parti d'Allah, le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Pour ceux qui veulent la référence, surat Mujadala verset 22. Il dit le Cheikh, hafidahullah, s'il déteste ces catégories de personnes, c'est-à-dire qui? Les pères, les fils, les frères et les gens de leur tribu. Les autres sont plus en droit d'être détestés et de se séparer d'eux s'ils s'opposent à Allah et à son messager. Allah a ensuite mis en évidence la récompense qu'il leur a donnée ou le fruit de cette alliance en Allah. Et de ce désaveu en lui. C'est quoi? Il a prescrit la foi dans leur cœur. Donc, il a prescrit la foi dans leur cœur. Ceci est un fruit, déjà. Et il les fera entrer dans des jardins, ou plutôt avant ça, et il les a aidés de son secours, une assistance, une protection. C'est un fruit également. Et il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Ceci est la troisième récompense. D'où l'importance de connaître ça. Et également, Allah les agrée. Allahu Akbar. Radiallahu anhum. Wa radu anhum. Et ils agréent Allah. Allah a affirmé que quoi qu'il les agrée. Ici, il y a un point dans l'aqidah important dans l'asma sifat. C'est quoi? Vas-y. Rida, naam, ithbat sifat rida lillah rabbil alamin. Hein? Allah, donc ce verset est donc une preuve. Regardez le shirk comment il nous donne beaucoup de fawaïd. Donc il y a des fois où vous connaissez des preuves sur certaines sifat et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Hein? D'accord? Donc le shirk ici, si quelqu'un jour il te demande, oui, tu dis qu'Allah il agresse, subhanallah, tu as une preuve sur cette sifat là. Tu dis, voilà. Sur le mujadala, radiallahu anhu. Hein? D'accord? Donc shirk dit ici, ce verset est donc une preuve pour affirmer ar-rida comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les agrée et ils agréent Allah. Hein? Allah les agrée pour ce qu'ils ont accompli et pour les droits d'Allah dont ils se sont acquittés, et parmi ceux-ci, l'alliance et les deux aveux. Ils l'agréent pour ce qu'ils ont obtenu comme récompense, ou plutôt comme immense récompense auprès d'Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont le parti d'Allah. Et Cheikh va continuer ici en expliquant les différentes parties. Donc Cheikh dit وَمَاذَا وَأَيَّدَهُمْ بِرُحُمْ مِنْهِ تَأْيِيدٌ وَنُصْرَةٌ وَحِفْضٌ. Ça on a déjà dit en français. وَمَاذَا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا هَذِهِ الْمَثُوبَةُ الثَّالِثَةُ. وَمَاذَا أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَثْبَتَ عَنْهُمُ الرِّضَا فَالْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى صِفَةِ الرِّضَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي عنهم بما قاموا به وما أدوه من حقوق الله عز وجل ومنها الولو البراء ورضوا عنه بما نالهم منه من الجزاء العظيم. Ici Cheikh continue un point important ici. وماذا أولئك حزب الله الناس حزبان لا ثالث لهما حزب الله وحزب الشيطان. Et ça c'est important de connaître ça parce qu'il y a une grosse fitna qui a paru il y a pas longtemps, des gens qui se prétendent être حزب الله dans un certain pays. Hein? Allahumma sta'an. Fa ahlu ta'atillah hum hizbullah wa khassatu hada al-hizb hum ahlu as-sunnah wal jama'a. Pas chi'a. Cheikh va expliquer ça ici. Et il dit ceux-là sont le parti d'Allah. Donc c'est-à-dire quoi? C'est que les gens sont en deux parties, sans troisième. Il n'y a pas de troisième à ces deux parties-là. Le parti d'Allah et le parti de Shaytan. Ceux qui obéissent à Allah sont le parti d'Allah. Et l'élite, qu'il a dit, l'élite de ces gens-là sont Al-Sunnah wal-Jama'a. Qu'Allah nous fasse être parmi eux. Le parti d'Allah est parti de ceux qui réussissent. Ala inna hizballahi humul muflihun. Une réussite dans ce bas monde en ce quoi Allah leur a permis de s'attacher à son livre. Je répète ce point important. La réussite où elle est? Une réussite dans ce bas monde, en ce quoi Allah leur a permis de s'attacher à son livre et au suivi de son messager, alayhi salatu wassalam. Et les y a comment? Consolidés. Et en ce vers quoi il les a guidés comme croyance authentique. Il dit, Cheikh, Ala inna hizballahum al-muflihun falahun fi dunya bima massakhum bihi min kitabihi wa tiba'i sunnati rasulihi alayhi salatu wassalam. Wa ma makkanahum fihi. ومهدهم إليه من صحة العقيدة والفقه في دين الله والفلاح في الآخرة والجنة ونعيمها ومنها ما في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والحديث رواه البخاري ومسلم. C'est donc un hadith qu'on appelle متفق عليه. وحزب الشيطان هم الكفار وأهل النفاق الاعتقادي. الشيخ nous dit donc quoi que cette réussite elle est dans ce bas monde comment? Dans ce en quoi Allah nous a permis, et leur a permis aux gens de la sunnah, à son hizb, à son parti, de s'attacher à son livre au suivi de son messager, et les y a consolidés, et ce envers quoi il les a guidés comme croyance authentique et compréhension de la religion d'Allah, et la réussite dans l'au-delà et le paradis. Donc la réussite ici, elle est de deux types. Il y a une réussite dans quoi? Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc la réussite dans l'au-delà et le paradis et ses plaisirs. Et parmi ceux-ci, ce qu'il a dit dans le hadith Qudsi. Pourquoi le Cheikh a dit ce qu'il a dit alors qu'il parle d'Allah dans le hadith Qudsi? Pourquoi le Cheikh ici, il dit dans ce qu'il a dit dans le hadith Qudsi alors qu'il parle d'Allah? Parce que tout simplement, le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah. Et j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu. ni aucune oreille n'a entendu et personne n'a jamais imaginé. Allahu Akbar. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hein, Bukhari 3244 et Muslim 7063. Le parti de Shaitan, c'est qui le parti de Shaitan, hein? C'est important de savoir c'est quelle partie d'Allah pour faire partie d'eux et le parti de Shaitan pour ne pas faire partie d'eux. Donc il dit, ce sont les mécréants et les hypocrites dans la croyance. Regardez la précision du shir, il a dit wa ahlun nifaq al i'tiqadi. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, et là on continue inshallah le matin, il dit قال المصنف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سورة النساء. Hein? Qu'est-ce que Cheikh Mohamed Abdouhab rahimahullah nous dit dans cette partie-là du matin? L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire Mohamed Abdouhab, a dit « Sache qu'Allah te guide vers son obéissance. » On avait vu tout le début du livre. C'était quoi le début du livre en arabe? « I'lam, rahimakallah. » Qu'est-ce qu'on avait pris comme fawaïd que Cheikh Abdi l'avait dit? Dans « I'lam, rahimakallah. »« Annahu yajibu alayna. » Qui s'est me rappelé? Je sais que la coupure elle était longue, mais Inch'Allah, c'est facile, c'est apparent dans ce qu'il dit. Même ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent peut-être le trouver. Hein? Exactement, c'est, il attire, hein, l'attention, sache. Hein? Rahimakallah, qu'est-ce qu'il y a comme faïda ici? Dua, talatouf, t'es doux avec la personne à qui tu parles. Hein? Et alors, rahimakallah, annahu yajibu, c'est quoi que c'est? Une obligation. D'accord? Ici, Cheikh dit, I'lam rahmakallah, ou plutôt ici, I'lam arshadakallahu li ta'atihi. Hein? Il dit, sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Hein? Que la Hanifiya est la religion d'Abraham, d'Ibrahim a.s., que tu adores Allah, et quelle est cette religion d'Ibrahim a.s., mais ça on va le voir en détail, que tu adores Allah seul en lui vouant une religion sincère. Et ce qu'il a ordonné, commandé, à tous les gens, et c'est pourquoi il les a créés, hein, comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, dans Surat Dhariyat, verset 56, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et le sens de « ils adorent » au ma'na ya'budun, yuwahidun. Le sens de « ils adorent » est « ils vouent cette adoration à Allah uniquement. » Le plus important qu'à Allah est commandé, « wa a'zamu ma amara Allah bihi, at-tawhid. » Donc le plus important qu'Allah ait commandé est le tawhid, l'unicité. Et c'est le fait de quoi? D'adorer Allah uniquement. Et la plus importante chose qu'Allah nous a interdit, c'est quoi? Le shirk. Wa a'damu ma manha Allah azza wa jal. Hein? Anhu huwa al-shirk. Hein? Et c'est le fait d'invoquer autre que lui. La preuve de cela, la traduction du sens de la parole d'Allah dans surat Nisa, verset 36. وَعْبُدُ اللَّهِ, hein, ici, وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, c'est-à-dire adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Et on va voir le tafsir de ça, inshallah, ensemble. Et pour ceux qui veulent plus de détails, il y a une risala qui a été écrite par Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah, hein, qui a pour titre وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, édition d'Arul Minhaj. Cheikh dit, explication, le sharah, قَوْلُ شِيْخ اِعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ أي هَدَاكَ اللَّهُ وذلك إلى الطريق الصحيح والطاعة هي موافقة الأمر بفعله وما موافقة النهي ب le contraire de فعل c'est الترك بارك الله فيك بتركه. C'est important d'avoir des قواعد comme ça, ça revient souvent. Le contraire de فعل c'est الترك. Donc comment tu obéis à Allah par rapport à ses ordres? Tu les fais par le فعل. Et comment tu obéis à Allah عز وجل par rapport à ses interdictions? Tu les laisses, le délaissement. Hein? D'accord? Donc, Cheikh nous dit ici, la parole du Cheikh, rahimahullah, c'est-à-dire Cheikh Mohamed Al-Wahhab, sache qu'Allah te guide vers son obéissance. C'est-à-dire qu'Allah te guide vers la voie authentique. L'obéissance, c'est quoi? Ta'a. Écoutez les définitions. Ta'a, c'est quoi? C'est le fait d'être conforme à l'ordre par son application et d'être conforme à l'interdiction par son ديليسمون شيخ تماشيخ يديز امتثال الأمر بالفعل والنهي بالترك داكوغ باسكو دون دون لي دو دون لي دو كا توبي ان اوردر الله مي ان ان فيزون اي لوتر لو ديليسون اي لي دو سين ادوراسيون اي لي دو سين اوبيسونس الله عز وجل داكوغ. Il dit وقوله الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية نسبة إلى الحنيف من الحنف وهو الميل ومنه الأحنف مائل القدم. وسمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا لأنه مائل عن الشرك بالله إلى توحيد الله عز وجل. يغدي كما نديد plusieurs fois dans nos cours كما المعنى اللغوي il nous donne quoi المعنى il nous aide pour le معنى الشرعي. Parce qu'on a dit dans quoi dans les mots qu'on a chaque fois définis, il y a ce qu'on appelle un ma'na comment ? Un sens linguistique et un sens dans la législation islamique. D'accord ? Et attention de ne pas comprendre. Hein? Il y a un très bon cours, en tout cas une partie de son cours que Abou Asma Hassan il avait fait. Hein? Vous pouvez retrouver sûrement le site d'Ikrullah et d'autres sites français qui diffusent les sites d'Hassan. Il avait parlé de ça. Il avait bien expliqué, il avait donné des exemples du Coran. Hein? D'accord ? Il avait donné les exemples. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. C'est quoi la main dans le shara? Elle commence où? Ici? Là? Là? Hein? Tu peux la comprendre que par le shara. Donc attention de ne pas comprendre que par la langue. Mais la langue, elle nous aide à comprendre. D'accord? Et il dit وقد أمر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا سورة النحل. وأثنى الله عز وجل سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوصف الحنيف. ها دونك سي كو سان ايلوج الله عز وجل فيه سور إبراهيم اون ابلون حنيف في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا سورة النحل. وفسر الشيخ الحنيفية التي هي ملة إبراهيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها كما قدمنا أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سورة البينات فيرسي 5. فقد نص الله جل وعلا في هذه الآية على أنه أمر الناس بجميع الشرائع التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأخبر أن ذلك أي المأمور به من عبادة الله الخالصة الحنيفية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة أي الدين المستقيم الذي لا عوج فيه سبيل الله القويم وصراطه المستقيم. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce point-là? Sa parole, la Hanifiya, est la religion d'Abraham, d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Al-Hanifiya, et c'est important dans la langue arabe, un point à comprendre, en référence à Al-Hanif. Et pour un peu se motiver à apprendre l'arabe, il y a un autre mot aussi que je reprends souvent dans les cours, et qui, subhanallah, le fait de connaître son sens linguistique, il aide beaucoup, le mot fitna. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Et Cheikh Chinqiti dans son tefsir, il dit que le fitna, il vient dans la langue arabe, du fait de mettre de l'or dans le feu pour que le pur se dissocie de l'impur. Hein? D'accord? Et ça nous rappelle le sens d'un verset de sourate Al-Ankabut, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim jusqu'à la fin de la sourate. Hein? Donc c'est important de connaître les sens linguistiques. L'ourd l'arabien, encore une fois, c'est très important. Il dit Al-Hanifiya en référence à Al-Hanif. Al-Hanif. Qui vient de Al-Hanfu. Al-Hanfu. C'est-à-dire la déviance, l'inclinaison. Comme par exemple Al-Ahnafu. Quand on dit quelqu'un Al-Ahnaf, c'est celui dont le pied est déviant. Hein, incliné. Hein? D'accord, mais comme il a dit Cheikh, ma'ilul qadam. Ibrahim a été appelé Hanif. Pourquoi on a rapporté ça ici? Car il s'écarte. Hein? Il s'écarte du shirk vers le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et ici, c'est une note de ma part que je vous rapporte de Cheikh Saadi, rahimahullah. il explique le terme Hanif pour plus nous éclairer concernant Ibrahim dans sourate An-Nahl. Il dit, donc on rapporte ça dans son tafsir évidemment, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. Verset 123 de sourate An-Nahl. Dans la manière suivante, il dit حنيفا مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية معرضا عن من سواه. Allahu Akbar. Regardez le Cheikh Saadi en une phrase, comment il nous donne quoi dans tafsir sourate An-Nahl, verset 123. تسير الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. C'est quoi? C'est مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية et en plus معرضا عن من سواه. On peut même l'étudier par cœur. مقبلا على الله بماذا؟ بالمحبة والإنابة ومعرضا عن من سواه. C'est-à-dire, Ibrahim est décrit comme étant quelqu'un qui dirigeait vers lui, vers Allah, avec amour et repentir et dévotion et s'écartant de tout autre que lui. Hein? Et là, on a fini la parenthèse de Cheikh Saadi, rahimahullah, et on continue dans la parole de Cheikh Obel Jabiri. Et Allah a ordonné à Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de suivre Ibrahim. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les suivre. Hein? À de nombreux endroits dans son livre. Par exemple, dans la traduction du sens de la parole d'Allah, puis nous t'avons révélé, regardez subhanallah, Cheikh Obel Jabiri, quel verset rapporte ici? Barakallah, c'est lui qui a cité juste maintenant, qu'on a cité. Regardez Al-Sunna comment le kalami, hein? Vous avez vu? Moi j'ai pris à part d'un autre livre, la parole de Cheikh Saadi dans le tafsir d'un verset. Et Cheikh Obeid, pour expliquer le Hanif, il utilise quel verset? Le même que Cheikh Saadi, rahimahullah. Il dit, puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Surat An-Nahl, verset 123. Pour ceux qui veulent revenir, inshallah, regardez le tafsir de Cheikh Saadi, rahimahullah. Donc Allah a fait l'éloge de son ami privilégié, ce qu'on appelle Al-Khalil, ce qu'on appelle Darajat Al-Khullah. Hein? Darajat al-Khullah. C'est-à-dire que Ibrahim était arrivé à ce degré de l'Khullah. Allahu Akbar. L'ami privilégié de qui? D'Allah Rabbil Alamin. Et qui d'autre avait ce degré-là? Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Hein? Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi sallam a dit à Abu Bakr Siddiq? Si? Naam. Regardez la position d'Abu Bakr Siddiq, subhanallah. Hein? Répète plus haut peut-être pour les frères. Allahu Akbar. Hein? Comme Allah il a pris Ibrahim comme ami intime. Allahu Akbar. Regardez la position de tous envers d'Allah et de Abu Bakr Siddiq dans la communauté de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc Allah a fait l'éloge de son ami privilégié, ce qu'on appelle Khalil Ibrahim, en le décrivant comme Hanif à plusieurs endroits dans son livre. Comme par exemple la traduction du sens de la parole d'Allah, Ibrahim était certes un guide parfait, soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs, surat An-Nahl, verset 120. La même surah. Cheikh Mohamed Al-Wahhab a expliqué la Hanafiya, qui est la religion d'Ibrahim, alayhi salam, et qu'Allah a ordonné de suivre à son prophète Mohamed, alayhi salam, comme nous l'avons dit précédemment, comme étant, quoi? Maintenant la définition de la Hanafiya. Quelle est la Hanafiya? Que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Un ta'bud Allah wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Traduction de la parole d'Allah, il ne leur a été commandé. Ici c'est quel verset? Wa ma umiru illa. Hein? Li'abudu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hunafa, vous avez vu le mot ici, hunafa, wa yuqimu as-salah, wa yu'tu az-zakah, wa dhalika din al-qayyimah. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salah et d'acquitter la zakah. Et voilà la religion de droiture. Surat al-Bayyinah, verset 5. Allah a dit dans ce verset qu'il a ordonné le monde dans toutes les législations avec lesquelles sont venus les messagers, alayhi salatu wa salam, de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Ça, c'est important de comprendre. C'est un verset peut-être qu'on lit souvent, hein, dans notre prière. C'est important de garder ça en tête quand on prie avec ce verset-là, quand on récite ce verset-là. C'est-à-dire quoi ? Que Allah a dit dans ce verset qu'il a ordonné le monde dans toutes les législations avec lesquelles sont venus les messagers, wama umiru, hein, et une leur a été ordonnée. Hmm? De l'adorer en lui vouant un culte exclusif et d'accomplir la salah, la prière, et de s'acquitter de l'aumône légale, la zakah. Et il a informé que cela, c'est-à-dire quoi, ce qu'il a ordonné comme culte exclusif, accomplissement de la prière et acquittement de la zakat, est la religion de droiture. C'est-à-dire la religion de droiture dans laquelle il n'y a aucune distorsion. La iwajia fih. Hein? Dans laquelle il n'y a aucune distorsion, la voie d'Allah et son chemin droit. Cheikh continue en disant, قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى, قال الشيخ بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الإشارة في قوله ذلك إلى ما تقدم من تعريف الحنيفية, فإن العبد لم يخلق إلا لعبادة الله عز وجل. بل جميع الثقلين الجن والإنس لم يخلقوا إلا لذلك. واستدل الشيخ بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, سورة الذاريات. Cheikh nous dit, et je dois peut-être traduire ici un point vraiment très intéressant, et là on va peut-être voir ce verset-là de manière différente comme on ne l'a pas vu précédemment peut-être, hein? Et Cheikh il va rapporter beaucoup de fawaïd tirés de ce verset-là, d'accord, mais avant ça on va rapporter juste cette partie-là pour pas qu'on s'éparpille. Cheikh il dit quoi? Il dit, Cheikh Mohamed Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala a dit, Allah a ordonné à cela, et on va voir c'est quoi cela, hein? Dhalika, c'est quoi cela? À tous les gens, et c'est pour cela, encore une fois, c'est quoi cela qu'il les a créés. Et le mot cela, dhalika, ordonner cela, c'est quoi? Indique dans cette phrase ce qui a été donné précédemment comme définition de quoi? De la hanifiya, barakallahu fikum. Car le serviteur n'a été créé que pour l'adoration d'Allah. Mais de plus, al-thaqalain, c'est quoi al-thaqalain? Al-jin wal-ins, na'am, n'ont tous été créés que pour cela. Hein? Et le cheikh a utilisé comme preuve la parole d'Allah, dont le sens est, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Si, pour les frères qui ont fait un peu de grammaire arabe, c'est quoi la dernière haraka qui est sur « لِيَعْبُدُونَ » Une kasra. Comment ça se fait qu'il y ait une kasra? Pourquoi ce n'est pas une fatha « لِيَعْبُدُونَ » pour qu'ils adorent? Même les frères francophones peuvent le trouver parce que c'est dans la traduction du verset. Je vous aide un peu. La kasra, c'est dalil ala madha. Hein? Vas-y. Hein? Saïd, fadal. Saïd Derer qui vous donne la réponse. Hein? Inch'Allah, il étudie à Médine, moi. Hein? Non, le nun, il est là. Mais tu y vas, mais regarde, qu'est-ce qui manque? Non, l'ya, barakallahu fik. Le kasra, c'est une preuve de qu'il y avait un ya avant. L'ya abudouni. Hein? Pour qu'il m'adore. Hein? On verra ça plus tard, inch'Allah, après le cours. Hein? Je ne veux pas trop sortir du cours, mais voilà, je dis ça juste pourquoi pour vous motiver à la langue arabe. C'est important. Hein? Et je rappelle encore une fois, comme j'ai dit hier, la parole d'Omar ibn Khattab, alaykum bil arabiyati fa innaha min dinikum. C'est la ta'if qu'on peut voir que quand on a la langue arabe. Hein? Que pour qu'il m'adore. Hein? Regardez, je répète la traduction que j'ai dite. Hein? Et vous voyez que ce n'est pas pour rien, et c'est traduit pas pour qu'ils adorent. Sinon, hein, li'abuduna. Non, c'est li'abudu ni. Hein? Et un frère qui connaît la grammaire arabe, il va se poser directement la question. On discutera après. Hein? D'accord, c'est, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. c'est une plus longue explication, mais vraiment de manière très. Moi, ce que j'ai voulu juste attirer l'attention sur le fait que c'est pour qu'il m'adore, c'est tout. Tu vois? Si tu veux, on fait les arabes ensemble après, Inch'Allah, et ça peut être intéressant, d'accord? Donc, surat al-Dhariyat, verset 56. Hein? Cheikh nous dit: Wa fi hadhihi al-aya min al-fawa'id wa al-ahkam. Il y a dans ce verset comme bénéfice et jugement. Et là, il va les citer un par un. اولا بيان الحكمه التي من اجلها خلق الله الثقلين وهي عبادته عز وجل ومعنى العباده في اللغه من التعبيد ومن وهو التدليل والتسخير ومن ذلك طريق معبد اي مدلل للمشي هذه الحقيقه اللغويه للعباده يشترك فيه جميع الخلق حتى ابليس عليه لعنه الله عبد لله بمعنى أنه مسخر مقهور لو أراد الله أن يذيبه لأذابه ولكن أبقاه إلى يوم البعث أو إلى يوم الميقات المعلوم لحكمة. Donc il y a dans ce verset de sourate Dariyat comme bénéfice et jugement, premièrement, la mise en évidence de la sagesse, la raison, ce qu'on appelle la hikma, pour laquelle Allah a créé les thaqalain. Et c'est quoi? C'est son adoration, subhanahu wa ta'ala. Et là, Cheikh, il donne la définition et le sens de l'adoration, l'ibada. Le sens de l'ibada dans la linguistique, dans son sens linguistique, c'est quoi? Le ma'na al-lughawi, ça vient de at-ta'bid. Et ça vient de ce qu'on appelle l'abaissement, l'aplanissement, et asservir, assujettir. Comme les Arabes, ils disent, at-tariqu al-mu'abbad. Sur une voie, une route, mu'abbad. C'est-à-dire une route comment aplanie pour qu'on puisse y marcher. Il a dit mudallalun lilmashi. D'accord? Ceci est donc la réalité linguistique de l'ibada dans laquelle se retrouve donc cette réalité linguistique là, elle se retrouve toutes les créatures. Même Iblis, Satan, et il dit shir la'natullah alayh, qu'Allah le maudisse. C'est un serviteur d'Allah dans le sens où quoi? Où il est assujetti. Et si Allah l'avait voulu, et là, le Cheikh ici, il a dit une parole que je ne vous cacherai pas que j'ai difficile à traduire. Il a dit وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُذِيبَهُ لَأَذَابَهُ. Et si on veut traduire littéralement, c'est faire fondre, أَذَابَ. Et je n'ai pas voulu traduire de manière littérale, mais alhamdoulilah, j'ai posé la question à Abu Sahib et il a confirmé ce qu'on avait déjà trouvé. Et c'est un hadith qui dans Sahih Muslim, il nous indique un peu le sens de cette parole-là. Wallahu alam. On toujours posé la question à Cheikh Aoubid. C'est quoi? C'est que c'est le hadith qui dit dans Sahih Muslim, il dit Man arada bi ahli al-madinati su bi su adhabahu Allah. C'est-à-dire quoi? C'est que celui qui veut un mal aux gens de Médine, qu'Allah le fasse fondre comme le plomb fond dans le fer, dans le feu, ou le sel dans l'eau. Et donc ici, on peut dire, Annie, que quoi que, si Allah l'avait voulu, il l'aurait châtié sans attendre. Et si on veut mal traduire de manière littérale, on va dire, s'il avait voulu Allah, il aurait voulu le faire fondre, il l'aurait fait fondre. D'accord? Inch'Allah, on peut toujours demander à Cheikh Aoubid al-Jabiri, si on a l'occasion de l'appeler ou de le visiter, Hafidhahullah, Annie, de lui poser la question pour voir réellement s'il a voulu dire ça. Donc ça reste entre parenthèses. Et il dit, mais Allah l'a laissé. Walakin abqahu ila yawm al-ba'th. Ou il a yom il miqat il ma'loum li hikmatin. Mais Allah l'a laissé jusqu'au jour ou de la résurrection au jour fixé. Et ce pour une sagesse. Cheikh dit wa shar'an. Maintenant, dans la définition quoi? De la législation islamique, qu'est-ce que veut dire al-ibada? Et là, évidemment, il va donner la définition. Qui est très connue de qui? De Cheikh. Islam Ibn Taymiyyah qui est tiré de Kitab. Al-Ubudiyya. Et c'est quoi la définition en arabe pour les frères qui la mémorisent? L'ibada. Vas-y, Ali. Barakallahu fik. Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali al-zahira wal-batina. Regardez les ulama, subhanallah, al-sunna al-jama'a. C'est qui donne la définition? C'est pas n'importe qui. Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Je me cherche, subhanallah, quand ils disent Qala ibn Taymiyyah, Qala ibn Qayyim, subhanallah, leur voix, le chant, subhanallah. C'est pas n'importe qui, ces gens-là. Ibn Taymiyyah il a dit, l'ibada c'est quoi? Ismun, jami'un. Hein? On va traduire c'est quoi? Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal-af'ali al-zahira wa al-batina. Qu'est-ce qu'il a dit le cheikh? Il a dit l'ibada, c'est un nom quoi? Générique, hein? Général, qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Comme quoi? Comme parole et action, hein? Qu'elle soit apparente ou cachée, ou hein? Intérieure, batina. D'accord? Hein? Parce que le cœur, il a aussi des actions. Hein? D'ailleurs, il y a un très bon livre d'Ibn Taymiyyah al-Risala qui s'appelle Al-Tuhfatul Iraqiyya. Je ne sais plus exactement, fi bayan ou quelque chose, l'amal qalbiya. Les Cheikh Abdelazak al-Badr, les Cheikh, ils disent que la base des actions, c'est l'amal qalbiya. Innamal amalu bin niyat. S'il n'y a pas d'attention, il n'y a rien. D'accord? Donc, Cheikh nous dit ici, c'est quoi? C'est un nom générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action, qu'elle soit apparente ou cachée ou intérieure. الشيخ دي واعلموا أن للعبادة ثلاثة مقامات يجب جمعها حتى تكون العبادة صحيحة وتلك المقامات هي الخوف والرجاء والمحبة بارك الله فيك نعم المحبة فالخوف يردع عن مغاضب الله والرجاء يطمع في رحمته والمحبة تجعل الصدور منشرحة لأوامر الله ونواهيه لأوامر الله بالفعل ولنواهيه بالترك والعبادة معادي الأركان لها شرطان هما تقول إيش les deux conditions de l'ibada on l'a dit tellement de fois الإخلاص والمتابعة الشيخ اللي plus précis que ça il dit تجريد الإخلاص لله وحده والتجريد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام c'est un mot difficile à traduire تجريد mais ça livre qu'on y a تجريد التوحيد وهذان الشرطان لا ينفك احدهما عن الاخر ها لي دو سون ليي نعم لان va pas sans l'autre on traduit d'abord ce premier point là et il dit donc première فائده ou plutôt dans l'importance de la définition de l'ibada il dit sachez que l'adoration a trois maqamat, trois degrés, trois stades, trois choses, hein, que l'on est obligé, qu'il nous est obligatoire de regrouper si on veut quoi? Si on veut que l'adoration soit authentique. C'est quoi le khawf là? La peur. Al-raja, l'espérance. Et al-mahabba, l'amour. Trois choses. Le khawf, al-raja, al-mahabba. Et on va citer une magnifique parole d'Ibn Qayyim tirée d'un de ses livres sur ces trois choses-là. Et que celui qui regroupe ces trois choses-là, que c'est lui le croyant, authentique. D'accord? Et donc justement, la note de bas de page du talib ilm qu'a fait Abu al-Haris al-Yamani, hafidhahullah ta'ala, il dit, et j'ai entendu qu'un des élèves de Cheikh Obeid al-Yamani était décédé récemment, à l'âge de 29 ans, et je pense que c'était même son secrétaire, et je me demande si ce n'est pas lui, mais je ne pense pas que ce soit lui, qui est décédé dans un accident de voiture, rahimahullah ta'ala. Hein? Il venait de se marier, subhanallah, il n'a jamais vu sa femme. C'est important de faire du'a pour les frères. Les mashaykh disent, hein, comme Cheikh Fall Ismail, quand il est venu ici, il avait dit une très belle parole. Wallah, c'est une parole à méditer. Il a dit, celui qui t'aime en Allah, c'est lui qui fait du'a pour toi. On dit toujours qu'on aime nos frères en Allah. Est-ce qu'on fait vraiment du'a pour nos frères? En sachant qu'il y a un hadith authentique qui dit que parmi les du'a spécifiques pour les enfants de la salafis que l'on a fait ça, cette année, l'année passée avec eux, hein, parmi les gens spécifiques à qui Allah azzawajal, il exauce, de qui il exauce les vœux, les du'a, c'est qui? C'est celui qui fait pour du'a pour son frère alors qu'il naît. Il est absent, il n'est pas là. Hein? D'accord? Il faut faire du'a pour nos frères. Rahimahullah, rahmatan wasi'a wa askanahullah fasiha jannati. Il a dit, قال العلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا سورة الإسراء verset 57. Qu'est-ce que nous dit Ibn Qayyim رحمه الله cet illustre savant رحمه الله تعالى il dit dans بدائع الفوائد alors est-ce que c'est lui qui écrit بدائع الفوائد Non, c'est qui? Non, c'est un cheikh égyptien qui a quoi? Qui, je me souviens, c'est Fouad Al-Baqi, hein, qui a quoi? A regroupé des livres d'Ibn Qayyim, des Fawaïd dans Tafsir. Il a regroupé, il l'a appelé Bada' al-Fawaid et ça a été édité dans une très belle édition par Ba'at ibn al-Jawzi en 3 tomes. Hein? Ça ne se vend pas très loin d'ici, je vous conseille vraiment de l'avoir, c'est magnifique. Il y a beaucoup de fawaïd, c'est ce qu'il a dit dans Tafsir al-Fatiha, ce qu'il a dit dans tout le surat, et tiré. Donc il a fait ce travail de compilation des livres d'Ibn Qayyim pour nous. Hein? Donc dans Bada' al-Fawaid, tome 3, page 522, celui qui l'adore avec la peur, l'espérance et l'amour, regardez, hein, il n'a pas dit où, il a dit et. Hein, celui qui l'adore avec la peur, l'espérance et l'amour, c'est celui-là le croyant. Allah a regroupé ces 3 stades de l'adoration dans sa parole, dont la traduction du sens est ceux qu'il invoque, hein, cherchent, ou plutôt ceux qu'ils invoquent, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Surat al-Isra, verset 57. Cher continent, disant, c'est quoi la peur? Ou plutôt, quel est le fruit de la peur? Al-Khawf. Il fait ou elle fait s'éloigner de la colère d'Allah. Hein? Si on a peur d'Allah et de son châtiment, ça doit faire qu'on doit s'éloigner de. Et c'est là ce qu'on appelle. Hein? C'est important, ça, en tant que salafi, de comprendre ça. C'est quoi cette aqida salafia? Qu'est-ce qu'elle implique dans notre vie? Qu'est-ce qu'elle implique comme fruit dans notre vie? Dans notre ibadah, dans nos akhlaq. C'est très important. D'ailleurs, j'aime beaucoup le charh de Cheikh Al-Uthaymeen, le charh Al-Wasitiyya, parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il dit toujours Al-Fawa'id al-Maslakiyya min hadi al-Aqida. Il parle de Sami' al-Basir et il dit qu'est-ce qu'on tire de cette Aqida-là dans ce qu'on peut pratiquer de cette Aqida-là. D'accord? Ça, c'est important de savoir qu'est-ce que ça implique. Et c'est une des thamaras de cette Aqida-là. Il dit, la peur fait s'éloigner de la colère d'Allah. L'espérance, elle fait espérer en la miséricorde d'Allah. Rahmatullah Azza wa Jal. Et l'amour, il rend les poitrines. Hein? Le mot français, à leur aise, il reprend Munchariha. Tanchariha hein? Sudur. Elles sont apaisées, les poitrines, elles sont apaisées, elles sont quoi? À leur aise. Quant aux ordres d'Allah et à ses interdits. Quand un mu'min, hein, l'interdit d'Allah, son cœur est apaisé, sa poitrine est apaisée. Hein, elle est large, il est à l'aise par rapport aux interdits. C'est-à-dire à quoi? À l'interdiction de ces interdits-là. Hein, et par rapport à quoi? À l'ordre de l'obéir. Avec ce qu'il a ordonné Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est-à-dire en appliquant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et l'adoration, en plus de ces piliers que l'on vient de citer, a 2 conditions. Donc, en plus de c'est quoi, il a appelé ça arkan. Il a dit, elle a 2 conditions, shartan. Et les ulama, je vous rappelle, dans Usul al-Fiqh, ils disent, wa ida fuqida al-shart fuqida al-mashrut. Si la condition n'est pas là, c'est ce pourquoi tu as mis une condition, mais elle n'est pas là non plus. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une de ces 2 conditions, eh ben, la ibada, elle n'est pas. A pas accepté, elle n'est pas là. C'est comme si elle n'était pas là. D'accord? Hein? C'est quoi ces 2 conditions-là? La sincérité complète, c'est vraiment une manière très approximative de traduire. Tajridu l'ikhlas illa azza wa jal. Hein? La sincérité complète pour Allah seul et le suivi complet. Tajridu l'mutaba'ati li rasulihi alayhi salatu wassalam. Et le suivi complet de son messager. Hein? Les 2 conditions sont liées. L'une et l'autre. Deuxième bénéfice qu'on peut tirer de ce verset de sourate. Dhariyat, verset 56. Parce que, tu vois, c'est pour ça qu'on revient chaque fois au verset de sourate Dhariyat. Il dit, Al-fa'idatu thaniya, al-imanu bi wujudil jinn. Wa annahum mukallafuna mitlu al-insi, falimuti'ihim al-thawab, wa yastihiqu 'asihim al-iqab. Qu'est-ce que nous dit Cheikh comme deuxième faïda, bénéfice qu'on tire de ce verset de surat Dariyat? Pourquoi? Wa ma khalaqtul jinna wal ins. On va essayer juste de terminer ce point-là. Salat l'Isha à 8h15, l'Iqama, Inch'Allah, on a un petit peu le temps. On laissera un petit peu de temps, Inch'Allah, aux frères de prier les deux rak'at, Inch'Allah, de faire le wudu, pour ceux qui veulent faire le wudu, etc. Donc, deuxième point ici, c'est quoi? Le Cheikh, il dit deuxième bénéfice, la foi en l'existence des djinns. D'où on tire ça du verset? Quel wajh l'istidlal, comme on avait dit chaque fois? Wajh l'istidlal. Hein? On m'a khalaqtu al djinn. Hein? Donc on doit croire, on doit avoir la foi à l'existence des djinns. Et qu'ils se doivent de pratiquer ce qu'on appelle son mukallafoun en arabe. Mukallaf. Hein? La religion comme les êtres humains. Celui qui obéit aura la récompense et celui qui désobéit parmi eux sera en droit d'être châtié. Yastahiqu. Troisième bénéfice, le fa'ida thalitha, il dit l'amru thalith bulugh risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lil djinn wal ins. وقد دل الدليل الصريح من القرآن والصحيح من السنة على ذلك فمن القرآن سورة الجن il dit قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا سورة الجن verset 1-2 وفي الحديث الصحيح الحديث الذي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بوفد الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام فالرسالة بلغتهم كما بلغت الإنس. Ça c'est un point important à comprendre. Il dit troisième bénéfice, c'est la transmission du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux djinns et aux hommes, les deux. Hein? Ceci a été indiqué de manière claire dans le Coran et dans l'authentique de la Sunna. Dans le Coran comme dans Surat al-Jinn, dans la traduction, en tout cas les deux premiers versets, dit قل il n'a été révélé qu'un groupe de djinns, qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture, c'est-à-dire le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Yahdi al-Rushd. Nous y avons cru, Aman Nabi. Et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Rahmukullah. Versets 1 et 2 de Surat al-Jinn. Et dans le hadith authentique, pour ceux qui veulent la référence à Al-Bukhari, livre de l'exégèse, Kitab Tafsir. Pourquoi on dit chapitre de l'exégèse? Parce que justement, c'est l'exégèse de Surat al-Jinn. D'accord? Donc, Surat al-Jinn, numéro 4921 dans Sahih al-Bukhari. Je vous répète encore une fois que c'est important pour le talib ilm d'aller, de ne pas se suffire de ce qu'on fait au cours. Ça, c'est une traduction vraiment approximative de ce qu'a dit le Shir. Et le Shir, c'est un livre qu'il essaye d'expliquer le mieux qu'il peut, mais ça reste toujours résumé, d'accord? Et le Shir, il cite des sources, etc. Le talib ilm qui fait, il fait le tahrij pour nous. Donc, c'est à nous, chaque fois, d'aller voir. À la lumière de ce qu'on a vu ici, chaque fois dans Fath al-Bari, Sahih Muslim, etc. Hein, c'est comme ça que le talib ilm se construit. D'accord? Il est dans le hadith authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est réuni avec des djinns. Hein, et leur a lu le Coran et les a appelés à l'islam. Le message leur est donc parvenu. Comme il est parvenu aux êtres humains. Et justement, le quatrième bénéfice découle du troisième. Hein, parce qu'il y a des gens qui commencent à rentrer. L'intellect, là où il n'y a pas lieu de le rentrer, qui ont des chouboites par rapport à ça. Il dit, Rabi'a, ça tire quoi, Al-Fa'ida, Rabi'a, Raddu ala man yakoulu min al-aqlaniyin wal-falsafiyin, atba' al-madrasit al-falsafiyat al-aqli al-mu'asira, in al-jinn mikroubat wal-jarafim. Wa hada yukadibuhu shara' wal-his wal-aql. Fa shara' ma taqadda min al-ayat, wa ma madat al-isharatu ilayh min al-hadith. والعقل لا يعرف أن الرسالة بلغت الميكروبات والحشرات. Regardez Al-Sunna, il réfute avec quoi? La législation, la raison et ce qui est perceptible, la réalité. Hein? Parce qu'on va le voir, il y a des gens qui ont vu des djinns. Hein? Et c'est même rapporté dans les sahih. Il a dit, Cheikh, faman, écoutez la question, faman rasoulul hasharat. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala lam يشرع الشرائع إلا للعقلاء من خلقه سبحانه وتعالى. وما الحس؟ فقد تواتر في أخبار الناس وبنقله العدول رؤية الجن. ومن ذلكم أيضا أبو هريرة رجل عنه أرضاه رآهم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الوكالة, حديث طويل, وفيه أن أبا هريرة أمسك به لما جاء يحثو من الصدقة 3 أيام, وأبو هريرة يهدده برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلل, وأنه ذو عيال وصاحب حاجة. في المرة الأخيرة لما رأى عدو الله ما رأى من الجد قال: يا أبا هريرة دعني وأعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان. قال: ما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم, إذا آويت إلى فراشك فقرأها فلن يقربك شيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. حديث كوني, أتعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3؟ قال: لا. قال: ذلك الشيطان. الحديث اللي غابوختيكم نيد دون صحيح البخاري. Et on va voir ensemble qu'est-ce que cela veut dire. Cheikh nous dit ici, il y a une réfutation là-dedans contre ceux parmi, et moi j'y mets entre parenthèses, pseudo-intellectuels et les philosophes, ceux qui suivent l'école philosophique rationnelle contemporaine qui disent que les djinns sont des microbes et des virus. Et ceci a été démenti par la législation, la réalité et la raison. D'accord ? Quant à la législation, regardez l'Ahl Sunna comment la réfutation elle est construite. Il dit dans la législation, cela a été démenti par le verset justement qu'on a cité de Sourate al-Jinn, qu'on a cité précédemment, et ce qui a été indiqué par le hadith. Quant à la raison, il dit, il n'est pas connu. Regardez l'argument rationnel qu'il rapporte justement. Ils croient qu'ils sont rationnels, ben Al-Sunna, ils demandent de manière rationnelle leur pseudo-raisonnement rationnel. D'accord ? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il n'est pas connu que le message ait été transmis aux microbes et aux insectes. Qui est le messager des insectes, dit Shir? Allah n'a légiféré législation que pour ceux dotés de raison parmi ses créatures. Il dit, quant à la réalité, ce qui est perceptible, il dit, ce qu'on appelle his en langue arabe, il a été rapporté de multiples voix, ce qu'on appelle le tawatur. Il n'y a pas moyen de discuter ça. Au point d'arriver au degré de tawatur, et par la narration de gens dignes et de confiance, l'oudoul, ce qu'il appelle l'oudoul, la vision des djinns. Et parmi eux, Abu Huraira, il n'est pas adil, subhanallah. Il les a vus, et je rapporte une règle importante, que pour Ahl Sunnah, tous les sahabas sont oudoul. C'est pour ça que dans certains hadiths, on dit, Rajulun min ashabi rasul. On avait cité dans un des hadiths précédemment, on a dit, un homme parmi les compagnons. Même si on ne sait pas qui c'est le hadith est sahih, parce qu'ils sont tous oudoul. Ça, c'est important de se rappeler ça. Il les a vus comme cela a été rapporté dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari. Dans le livre d'Al-Wakala, Kitab al-Wakala, revenu dans Sahih al-Bukhari, dans un long hadith, et nous on rapporte que la partie qui nous intéresse, dans lequel Abu Huraira a mis la main sur l'un d'entre eux. Il a attrapé un djinn. Et je vous conseille d'aller voir, parce qu'Ibn Hazar, il a rapporté tellement de fawa'id de ce hadith. Al-Sunnah, c'est impressionnant. En un hadith, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme ahkam? D'accord. Il a dit que il a même rapporté comment il l'a attrapé, pourquoi, etc. Il a dit qu'il était donc il a mis sur la main l'un d'entre eux sur qui était venu prendre une partie de zakat al-fitr, que le messager d'Allah avait laissé, alayhi sallam, avait laissé sur la production d'Abu Huraira, c'est-à-dire wakalahu bihifdi as-sadaqa zakat al-fitr. Professeur Hassan, il a quoi? Il a mis à la protection de zakat al-fitr, qui Abu Huraira, il y a un djinn, un shaitan qui est venu quoi? Pour prendre une partie de ça. Et 3 jours de suite, Abu Huraira l'attrape. Et il le menace. Yuhaddiduhu en arabe, il a dit le shaykh. De l'amener chez le prophète, alayhi sallam. Et le djinn, qu'est-ce qu'il fait? Yata'allalu. Il trouve des excuses, des bonnes raisons. Qu'il est dans le besoin et qu'il a des enfants, etc. D'accord? Et la dernière fois, lorsque l'ennemi d'Allah voit que c'est sérieux, il dit. Là, il voit qu'après 3 jours, qu'il va vraiment l'amener chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'en sort avec quoi? Avec quelque chose. Il lui dit, oh Abu Huraira, laisse-moi et je t'apprends un verset. Si tu le lis, aucun shaitan ne t'approchera. Il dit, c'est qui venant qui parle ici? Abu Huraira, il dit, quel est-elle? C'est quoi ce verset? Il dit, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, al-qayyum. C'est quel verset ça? Ayat? Le Kursi. Hein? Si tu vas au lit, lis là. Aucun shaitan ne t'approchera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il est véridique dans ce qu'il t'a dit. Et moi je me rappelle un truc, subhanallah, les hizbin, ils utilisent ce hadith, pourquoi? Vous dites, ouais, tu prends la science n'importe qui. Et on termine le hadith. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra, il a pris de lui-même. Il a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sadaqaka wa huwa kadoub. Il a dit, t'as dit vraiment attention, c'est un grand menteur. Il a dit, yani, ça tu prends. Parce que dans ça, il a dit vrai. Hein? D'accord, et revenez à Ibn Hazm al-Asqalani, ce qu'il a dit dans Fath al-Bari, c'est très intéressant. Il a dit, regardez, il a dit, sadaqaka, ce qui peut paraître comme une éloge, et c'est pour ça directement après, il a dit, wa huwa kadoub. Hein? Sadaqaka wa huwa kadoub. Hein? Et revenez, c'est, je vous assure, c'est très intéressant. Donc il dit, il est véridique dans ce qu'il t'a dit, mais c'est un grand menteur, kadoub. Sais-tu qui t'a adressé la parole? Oh Abu Huraira, le prophète Sassim, il dit, oh Abu Huraira, sais-tu qui t'a adressé la parole? Qu'est-ce qu'il dit Abu Huraira? Non, il dit non. Hein? Il dit, celui-là est shaitan. Et donc, pourquoi le shaitan a rapporté ce hadith-ci? Parce que Abu Huraira, il a vu un shaitan, il l'a attrapé. Hein? D'accord? Et rapporté par Al-Bukhari, livre d'Al-Wakala, numéro, pour ceux qui veulent voir, 2311. Al-Wakala, Wakala. Waouh, kaf, alif, lam, ta, morvota, l'wakala. Donc, des informations, Cheikh continue en disant il a l'yomi tablourouna akhbarul udoul fi mouchahadatil djinn. Hein? Des informations de gens dits de confiance sur la vision de djinn nous arrivent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le sens de ya'boudoun yuwahidoun, le sens de ils adorent, c'est-à-dire ils vouent cette adoration à Allah uniquement. Wa at-tawhid huwa ifradullah bil ibada. Hada wa tawhid al-uluhiyyah wal ihtimam bihi akthar, li'anna akthar an-nas munkirun lah, fa huwa a'zamu ma amara Allah bih, wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza' wal khusumah bayna al-anbiya' wa umamihim. Hein? Il dit le tawhid c'est vouer l'adoration à Allah uniquement. Ceci est le tawhid al-uluhiyya. Et l'importance qui lui a été donnée est la plus grande, car la plupart des gens le renient. Et il est ce que Allah a ordonné de plus important. Et il est ce en quoi ou pourquoi la dispute est arrivée entre les prophètes et qui et leur, alayhi salatu wassalam, hein, et leur communauté. Wa a'zamu ma naha anhu shirk. Wa qad mada ta'rifuhu. Wa tadalla al-shaykh ala hadayni al-amrayni, yani a'zam ma amara Allah bihi al-tawhid. وعظم منها عنه الشرك بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا سورة النساء. Il dit et le plus grave que Allah ait interdit c'est l'association, le shirk. Nous avons déjà vu sa définition précédemment, c'est quoi le shirk? Le shirk, Mohamed Al-Wahhab rahimahullah, a utilisé comme preuve pour ces deux choses, c'est-à-dire le plus important qu'il a ordonné et c'est le tawhid. Et le plus grave de ce qu'il interdit, c'est quoi? Le shirk. Sa parole, dans la traduction du sens, est adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Surat Nisa, verset 36. Wa'budullah, wa la tushriku bihi shi'a. Adorer Allah, ceci est un ordre. Wa'budullah, hada amrun. Wa la tushriku bihi shi'a, hada nahyun. Wa hada ma ta'wadnahu min Allah subhanahu wa ta'ala, ya'muru bi'ibadatihi wa yanha ani shirki bih. وفي ذلك رد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون يؤمر الإنسان بالإيمان يعلم الإيمان ويترك فإن الإيمان ينهاه عن المعاصي سبحان الله أنتم أعلم أم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما يجب له وبما يكره ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشرع الله قال صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن نبي قبل إلا دل أمته على خير ما يعلمه لها ويحذرها شر ما يعلمه لها والحديث أخرج مسلم كتاب الإمارة هكذا الدعوة فدعوة الله على بصيرة تأسيا برسوله عليه الصلاة والسلام تتضمن الأمر بالطاعات وأعظمها التوحيد والنهي عن المعاصي وأعظمها الشرك بالله ها؟ كيف يقول الشيخ عبيد الجبير حفظه الله؟ il nous dit Adorer Allah, ceci est un ordre. Et ne lui donner aucun associé, ceci est un interdit. Allah nous a habitués à cela dans son livre. Il nous ordonne de l'adorer, il nous interdit de lui donner un associé. Et ceci est une réfutation de ceux qui se revendiquent de la da'wah. Et qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Ils se revendiquent de la da'wah, de la prêche. Hein? Ils disent, on ordonne aux gens de croire, on leur donne l'iman, et après on les laisse. Hein? C'est-à-dire qu'on ne leur interdit pas de mécroire, de shirk, on les laisse. Hein? Et la foi, ben, elle va les empêcher de désobéir. Hein? Et Cheikh dit, subhanallah. Il dit, êtes-vous plus savant ou Allah? Et son messager, alayhi salatu wassalam. Hein? Allah est plus savant de ce qui est obligatoire envers lui, subhanallah. Hein? Et de ce qu'il déteste. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus savant des créatures. De quoi? De la législation d'Allah. Il a dit, qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par un muslim, Kitab al-Imara, il n'y a pas eu de prophète avant moi sans qu'il n'ait indiqué à sa communauté ce qu'il connaît du mieux pour eux, et après c'est tu. Non, il ne s'est pas tu, il a dit, et qu'il ne les mette en garde contre ce qu'il connaît de pire pour eux. Ah, c'est un rat contre eux, ça, une réfutation. Rapporté par un muslim, livre de Al-Imara, ce qu'on appelle Kitab al-Imara, numéro 4753. Et Cheikh dit, comme cela est la prêche, la da'wah, la prêche à Allah, l'appel à Allah avec clairvoyance, science, en prenant pour exemple le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comprend l'ordre d'obéir, de s'acquitter des obligations, dont la plus importante est le tawhid, et l'interdiction de lui désobéir est la pire des désobéissances, des péchés et le shirk. Et on va vite terminer là-dessus, inshallah, comme ça on aura terminé ce chapitre-là. On fait sahihayni, rapporte encore une preuve de la sunna. An ibn Mas'ud, radiallahu anhu, قال, سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري في كتاب التفسير ومسلم في كتاب الإيمان. شيخ دي وأنزل الله تصديق نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. سورة الفرقان verset 68 الآية. فانظروا ماذا تضمن الحديث. لقد تضمن مناهي وأعظمها شرك بالله. فإذا هذا القائل الذي يدعو الناس إلى الإيمان ويدعو إلى تركهم بعد ذلك إما جاهل بفقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضال مضل صاحب بدعة. On aura fini avec ça, inshallah. Qu'est-ce que le Cheikh Obaid nous dit ici? Il dit, hafidahullah, dans les deux authentiques, Bukhari et Muslim, d'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda, il dit, j'ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel est le pire des péchés? Il dit, que tu donnes Allah à un semblable, un nid. Hein? Alors que lui seul t'a créé. Je dis, ceci est certes très grave. Et ensuite, il dit que tu tues ton enfant de peur qu'il se nourrisse avec toi. Je dis, et ensuite, il dit que tu forniques avec l'épouse de ton voisin. Et c'est une petite faïda que je vous rapporte, hein, que l'imam Nawawi rahimahullah l'a rapporté dans Sharh Sahih Muslim. Pourquoi il a dit halilata jarik? Parce qu'elle est halal pour son mari. C'est pour ça qu'il a dit halilata jarik. Hein? Donc il est rapporté par Al-Bukhari numéro 4477 et Muslim 253. Allah a révélé des versets qui ont rendu véridique ce hadith-là, hein, qui ont appuyé cette parole de son prophète, alayhi sallam, dont la traduction du sens est, dans Surat Furqan, qui n'invoque pas d'autre Dieu qu'Allah. Regardez, c'est quoi? Le premier shirk, hein? C'est-à-dire qu'ils sont sur le tawhid. Et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, c'est le deuxième péché que le prophète a cité dans le hadith. Hein, et qui ne commettent pas de fornication. C'est quoi le troisième qui a été cité dans le hadith? Subhanallah, ils se retrouvent tous les trois dans le verset qui a été cité pour rendre véridique et appuyer ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans surat al-Furqan, verset 68. Regardez donc ce qui a été compris dans le hadith. Il comprend des interdictions. Hein, et la plus grave, c'est le shirk. Alors, ça, c'est un rat sur qui, ça? Pour ceux qui disent, non, on apprend les gens l'iman et on les laisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas laissé les gens. Il leur a interdit le shirk. Celui donc qui appelle les gens à la foi et appelle à ce qu'on les laisse après, celui-là est soit un ignorant de la méthodologie de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas 36 choses, ou il est ignorant de la méthodologie de la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit un égaré égarant, un dal modil, hein, qui a une innovation. Et on termine là-dessus. Wallahu alam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oui.
استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.